Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime avec Perrine Suquet, avec Margot Agnès. Aujourd'hui, c'est Alexandre Cagzan qui est à la technique de l'heure du crime. Et vous avez peut-être entendu quand on parlait de ces crimes dans les trains tout à l'heure avec Christelle Rebière et Vincent Parisot, je faisais la remarque que effectivement cette petite phrase que tout le monde connaît, même ceux qui parlent pas italien, les pericoloso spongersi, n'avait jamais été autant d'actualité au fil des années. Alors c'est vrai que il y a eu dans le temps le train du plaisir, on peut dire aussi qu'il y a eu des trains du crime, et ça va être notre sujet aujourd'hui, grâce à la passion de mon invité Jean-François Mignac. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Le plaisir est pour moi.
Vous venez de publier aux éditions De Boré les grandes affaires criminelles du rail. Alors vous balayez, on en parlera tout à l'heure un peu plus complètement, plus d'une centaine d'années, hein, puisqu'il y a des affaires qui datent d'avant le 20e siècle, enfin 19e on va dire, jusqu'à des événements qui sont passés beaucoup plus près de nous. D'où vous vient cette passion ?
On peut dire que c'est une vieille passion. Hein. En tant que dessinateur de BD, j'avais travaillé il y a quelques années sur les Agatha Christie, hein, donc Reine du Crime, passionné par les trains et notamment sur le crime de l'Orient Express. Je suis passé quelque part en fait de la fiction à la réalité.
Voilà. Et là, vous avez eu envie de voir un peu, comme nous d'ailleurs, comment ça se passait dans la réalité.
Absolument.
Et on est mort souvent, malheureusement, dans les trains. Bon, si vous vous apprêtez à prendre le train ce soir, maintenant, on a changé d'époque, hein, quand même. Mm-hmm. On peut dire maintenant qu'il y a beaucoup plus de surveillance qu'il y en avait avant. Ça, je parle pour les attentats terroristes.
Tout à fait. Oui, puis il y a une évolution de la criminalité ferroviaire, en fait. Hein. Au départ, c'est essentiellement du crime domestique. Ouais. Et puis, du crime domestique, on passe finalement à bien souvent des affaires politiques, des affaires de terrorisme.
Voilà. Alors, à propos d'affaires politiques, d'ailleurs, on évoquera tout à l'heure dans cette émission une affaire qui est encore un mystère aujourd'hui, en tout cas un mystère officiel. On attend l'ouverture des archives pour 2034, je crois. Mm-hmm. Il s'agit de la mort mystérieuse du conseiller Prince. Alors voilà.
En 1934. Au moment de l'affaire Stavisky, en fait, hein, puisque le conseiller Prince est finalement le deuxième mort dans l'affaire Stavisky après l'escroc bien connu.
Voilà. Alors, est-ce qu'il a été tué? Est-ce que c'est un meurtre commandité par des gens qui savaient qu'il avait peut-être des révélations à faire sur l'affaire Stavisky, qui aurait éclaboussé toute la classe politique de son époque? Est-ce qu'il s'est suicidé? La question s'est posée aussi. On peut en douter, effectivement. Alors, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais nous allons ouvrir cette émission avec un événement qui s'est déroulé il y a quelques années, 1984, le 13 août 1984, un engin explose à la consigne de la gare de Lyon-Perrache, heureusement sans faire de victimes, mais on va en parler parce que cet attentat est rapidement revendiqué par l'armée secrète arménienne pour la libération de l'Arménie, et sur RTL, Bernard Lehu, ce jour-là, ouvre son flash de 21h, bien sûr, sur ce sujet.
L'attentat à l'explosif à la gare de Lyon-Perrache peut être une piste pour les enquêteurs. Un interlocuteur a revendiqué indirectement, il est vrai, l'explosion en répétant à deux reprises « La Salah frappera une nouvelle fois » dans un appel téléphonique au bureau régional de l'agence France Presse à Lyon. L'interlocuteur affirmant parler au nom de La Salah, donc l'armée secrète arménienne pour la libération de l'Arménie, a immédiatement raccroché. Je vous rappelle qu'un engin de moyenne puissance a explosé vers 17h20 dans une consigne automatique sans faire de victimes, mais causant de nombreux dégâts matériels.
Ah, évidemment, les autorités sont quand même sur les dents. Pourquoi ? Parce que ce groupe terroriste, à Salin, a revendiqué également ce jour-là une autre action terroriste qui s'était déroulée à Los Angeles, une bombe qui avait explosé dans un car transportant des sportifs turcs. Mais très rapidement, les enquêteurs américains vont prendre contact avec les Français pour leur dire qu'en fait, le véritable auteur de cet attentat à Los Angeles, Angeles. C'était un policier, figurez-vous, qui voulait juste faire parler de lui, briller au nom de ses, aux yeux de ses supérieurs hiérarchiques. Il avait lui-même posé la bombe, qu'il avait ensuite désamorcée avec succès. Et donc, il était absolument pas question d'attentat terroriste. Et ça retire beaucoup de crédibilité, évidemment, on l'imagine, à cette revendication arrivée à l'AFP 3 heures après l'explosion de la gare de Lyon-Perrache. Mais 3 jours plus tard, ça recommence. Le 16 août, donc toujours en 1984, nouvel attentat. Et cette fois-ci, c'est la ville d'Annecy qui est touchée. Là, c'est beaucoup plus grave. Une femme va être grièvement blessée par l'explosion. Elle devrait être amputée d'une jambe. L'attentat est également immédiatement revendiqué par un groupe qui était jusqu'alors inconnu des autorités. Écoutez, Michel Claveau, c'est elle qui présentait les flashs ce jour-là sur RTL. Elle annonce ce nouvel attentat dans son flash de 20h.
3 personnes ont été blessées, dont une grièvement, par l'explosion d'une bombe artisanale cet après-midi dans le centre culturel Bonlieu d'Annecy. L'attentat a été revendiqué par un groupe mystérieux, le groupe M5, inconnu des services de police. La bombe, un engin artisanal, avait été placée devant la maison du tourisme. La femme grièvement blessée par l'engin a eu une jambe déchiquetée. Elle a été admise en salle de soins intensifs à l'hôpital Édouard Herriot. La déflagration a largement endommagé la librairie du centre culturel.
Alors là, Jean-François Mignac, les autorités prennent les choses vraiment très au sérieux. Il y a une cellule de crise qui est immédiatement montée, activée à la préfecture du Rhône avec les renseignements généraux, la DST, enfin toutes les forces de police. Pourquoi ? Parce que, ce groupe a également revendiqué le premier attentat, oui, celui de Lyon-Perrache, en donnant des détails.
Tout à fait. Hein, l'interlocuteur au téléphone, donc à l'AFP, a donné des détails que seuls les poseurs de bombes connaissent, ainsi que les policiers. Alors notamment, il évoque de la poudre noire, il évoque un détonateur. Hein,
toute chose qui n'était pas parue dans la presse.
Absolument. Hein, ouais. Et puis, au-delà de ça, il menace le gouvernement. À l'époque, le gouvernement, c'était celui de Laurent Fabius.
Ah oui, il n'était pas là depuis longtemps.
Hein. Il était là, c'était donc le plus jeune, effectivement, président, premier ministre, en fait, de la République, 37 ans. Il venait d'être élu le 17 juillet précédent. Donc, en fait, c'était son baptême du feu en matière de terrorisme.
Voilà. Et ces terroristes vont menacer, comme vous le dites, de frapper à nouveau, oui, à moins qu'on ne paye une rançon, mais considérable.
Alors, une rançon absolument colossale, de 3 milliards de centimes, 30 millions de francs. Donc, il faut faire la conversion en euros aujourd'hui. Ouais. Et en fait, il demande à ce que de l'argent soit déposé dans un TGV, de l'argent en coupure, naturellement, en marques et en dollars.
Ouais, il y en a pour un mètre cube, quand même.
Il y en avait pour un mètre cube, ouais, absolument.
Voilà. Alors, il y a cette revendication qui peut paraître un peu fantaisiste, mettre ça à bord d'un TGV, arrêter le TGV avant un pont. Enfin bon, c'est assez compliqué. Mais ce qui est très inquiétant, c'est que ces interlocuteurs disent, j'ai noté la phrase puisque vous la rappelez dans votre livre, nos prochaines actions seront beaucoup plus sanglante. Alors, donc, d'où, évidemment, le fait que tout le monde prend au sérieux cette chose-là. Alors, ce que font les policiers dans ces cas-là ? On cherche s'il y a eu des histoires comparables dans le passé. Et il y en a eu, en Europe et en France.
Alors, il y en a eu, effectivement, peu, naturellement, puisque c'est une affaire de chantage au terrorisme. Il y en a eu une, notamment en Allemagne, où un dénommé, quelqu'un qui se surnommait Oncle Picsou, avait effectivement menacé d'attentats terroristes dans des magasins, dans des grands magasins, en fait. Voilà. Et ce personnage avait été arrêté, condamné à 9 ans de prison à l'époque. Ouais. Il y avait eu aussi un maître chanteur en 68, qui avait menacé de faire exploser une bombe sur un train Paris-Marseille. Oui. Voilà, mais donc c'était
à Lyon, il y avait eu Matancio, l'affaire Matancio, les brigades 666.
Voilà, les brigades 666 des brigades rouges en 76, où ce dénommé Matancio avait séquestré 3 personnes, tuées par ailleurs, et il réclamait une rançon considérable aussi pour leur libération. Voilà.
Pour leur libération et pour arrêter, évidemment, ces attentats. On comprend, en ayant rappelé ces précédents, que toutes les polices de France sont sur les dents et on espère que ça va s'arrêter, malheureusement, et on va le découvrir dans un instant après une pause. Malheureusement, un 3e attentat, toujours signé de ce groupe mystérieux M5, va avoir lieu dès le lendemain.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime.
Comme je vous le disais il y a un petit instant, le troisième attentat du mystérieux groupe M5 va avoir lieu dès le 17 août 1984, donc dans la gare de Grenoble cette fois. Il y aura des témoins, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, qui voient un homme s'enfuir, le visage en sang. Sur RTL, on écoute, avant d'en parler avec Jean-François Mignac, on écoute le récit qu'en faisait à l'époque notre correspondant dans la région, Robert Dahan.
À Grenoble, le calme est revenu dans la gare, mais les fourgons de police sont toujours là et des barrières métalliques empêchent les curieux d'approcher. Car c'est là que vers 20h, le groupe M5 a frappé pour la troisième fois en une semaine à nouveau dans une gare, celle de Grenoble, vous l'avez dit, tout près des casiers de consignes automatiques, mais cette fois dans l'appareil servant aux voyageurs à se faire photographier. Un photomaton, si vous voulez. Seulement cette fois, l'engin, qui d'après les artificiers paraît semblable à celui qui a explosé hier à Annecy, semble avoir justement explosé entre les mains du terroriste, puisque aussitôt des témoins ont aperçu l'homme, un homme jeune, s'enfuir en courant, se tenant la tête entre les mains, le visage en sang, et ces mêmes témoins ont affirmé qu'ils ont aperçu également deux hommes venir au secours du blessé et l'emmener presque de force dans une voiture, une R5 qui stationnait devant la gare. Ce qui explique que des barrages aient été mis en place tout autour de Grenoble et qu'une enquête a lieu en ce moment même dans tous les hôpitaux.
Et alors, cette voiture, cette R5 blanche, Jean-François Mignac, va être vue quand même par pas mal de témoins. Il paraît, je ne sais pas si vous me le confirmez, il paraît qu'une partie du numéro d'immatriculation est relevée.
Absolument, oui, ouais. Oui.
Alors donc l'enquête là part un peu dans tous les azimuts, mais surtout dans la région pour essayer de retrouver cette voiture. Il y a des barrages, ça marche pas ?
Ça marche pas absolument. Et bon, par ailleurs, en fait, cet attentat n'est pas revendiqué. Hein, mm-hmm. C'est un attentat manqué. Donc, malgré tout, il y a des similitudes techniques qui font qu'il est attribué naturellement au groupe M5. Ouais. À la suite de ça. Un portrait robot est établi et est diffusé le dimanche 19, en fait. Alors, ce portrait robot, c'est celui d'un jeune homme de 23 ans, c'est celui de quelqu'un qui porte des lunettes et qui mesure 1m70. Hein,
voilà, c'est-à-dire voilà, c'est que c'est l'homme qu'on a vu s'enfuir le visage ensanglanté. Quoi,
voilà,
en fait, hein,
tout
oui,
à fait.
D'accord. Alors ça ne donne rien non plus.
Non, pendant quelques jours, ouais. c'est le vide total, ouais. jusqu'à la nuit du 22 août, en fait, où à nouveau, l'AFP reçoit un coup de fil, un appel téléphonique, en fait, d'un individu qui se dit être le porte-parole du groupe M5 Nevers.
Ouais. Hein,
donc là, le groupe est sorti de la région Rhône-Alpes dans laquelle étaient limités ces attentats.
Ouais.
Et donc, il revendique le fait en disant « Nous avons fini par sortir des Alpes malgré tous les dispositifs de sécurité lorsqu'il n'était pas une mince affaire puisque un tiers des forces de l'ordre à l'époque était sur cette affaire. »
Sur cette affaire,
voilà.
Ouais. Alors, évidemment, il y a la police nationale, tous les groupes possibles et imaginables de répression du banditisme, les renseignements généraux, etc. Il y a la DST. Et la DST la DST va recueillir un tuyau.
Absolument. La DST va déterminer, en analysant les appels téléphoniques, que l'individu téléphonera le jeudi 23 de la ville de Nevers. Donc naturellement, toutes les cabines sont mises sur écoute, surveillées. Certaines sont abandonnées, hein, oui. De façon à faciliter la surveillance.
Ah oui, c'est-à-dire qu'on les met en panne.
On les met en panne, absolument.
Pour que les gens trouvent une autre cabine qui marche, qui est elle surveillée par la police.
Ouais. Voilà. Et ouais. comme Subodoré, effectivement, un appel
a lieu
ouais. depuis une cabine depuis cette ville de Nevers. Ouais. Naturellement, les forces de police se précipitent vers la cabine, surprennent un individu qui en sort et le suivent.
Alors, il faut dire une chose, c'est que cet homme a eu le temps de parler
oui.
au cours de cette conversation téléphonique.
Oui.
Il a donné un rendez-vous à la police, à la gare de Lyon,
oui.
à 20h.
À 20h.
Hein. Il a dit qu'il fallait qu'un policier soit à la gare de Lyon à 20h, prêt à recevoir de nouvelles instructions.
Bon. Et ça tombe bien.
Un vrai roman policier, là.
Absolument. Et ça tombe fort bien, puisque l'individu en question gagne la gare de Nevers et se dirige naturellement gare de Lyon.
Voilà, il est les inspecteurs évidemment
voilà.
derrière lui. Ouais.
Il est donc intercepté gare de Lyon, mais manque de bol. C'est pas notre terroriste, c'est un simple quidam, un capitaine d'industrie lyonnais, en fait, qui était là par le plus grand des hasards et qui téléphonait. En réalité, il a téléphoné juste après le terroriste qui, lui, s'est évaporé dans la nature.
Voilà, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que cet homme-là va où ?
Garde Lyon.
Donc, jusqu'au bout, évidemment, les policiers vont penser tenir un membre de la bande. Alors, l'histoire n'est pas terminée. Parce que, à 20h, effectivement, un policier qui a quand même été mis en place, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais celui en tout cas qui était désigné par sa hiérarchie pour attendre l'appel du terroriste, et bien là, il reçoit donc un nouvel ordre dans une cabine de la gare de Lyon, et là on lui dit qu'il doit prendre un train pour Grenoble le lendemain matin, le vendredi 24 août, à 8h. Mais ce même vendredi 24 août, après 11 jours d'enquête, deux personnes suspectées d'appartenir au groupe terroriste sont arrêtées à Dijon, évidemment, d'une nouvelle fracassante qui est relayée par RTL, vous l'imaginez, où on entend les premières explications de Robert Daran dans RTL Soir.
Cette fois, la piste semble bonne, même si policiers et magistrats restent d'une discrétion totale. Mais comme l'on dit en jargon policier et journalistique, le tuyau, cette fois, est bon. Ce matin, les policiers ont arrêté près de Dijon, en Côte d'Or, dans une petite commune, celle de Talent, au nord de Dijon, deux personnes appartenant au groupe M5, et dont l'un ressemble comme deux gouttes d'eau au portrait robot publié hier par toute la presse. Et d'après les renseignements que je possède, ces deux personnes auraient déjà avoué. C'est tout ce que je puis vous dire pour l'instant, encore qu'il faille se méfier, vous le savez, puisque hier au soir aussi, on avait cru que l'homme du portrait robot avait été arrêté près d'Orly, ce qui était faux, alors que l'on avait aussi arrêté un autre homme tout aussi ressemblant à Grenoble, brûlé de surcroît au visage, comme le terroriste de Grenoble. C'était faux aussi. L'homme de Grenoble était un cracheur de feu qui s'était brûlé au visage en crachant son pétrole. Mais pour comprendre que la piste de Dijon est bonne, il faut se souvenir que dans les débris de la bombe explosée à Lyon à la gare de Perrache, on avait retrouvé des restes d'un journal de Dijon.
Voilà, donc, en fait, succès total et de la police. Et on va s'apercevoir, Jean-François Mignac, que le fameux groupe terroriste était composé, en fait, de deux personnes, et j'allais dire de deux personnes dont une, quoi.
Oui, absolument. En fait, la personne essentielle, c'est donc Thierry Maitré, qui est le poseur de bombes.
27 ans, chômeur, qui habite avec son chat.
Absolument, donc un marginal. Et son second étant Claude Vallot, qui est donc l'artificier, et qui est lui-même aussi un marginal.
Voilà. Et donc, alors, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que cette arrestation est dû à un nouveau hasard. C'est le hasard d'une enquête sur un braquage qui va amener le groupe de répression du terrorisme, du banditisme, oui, par contre, de Dijon, à perquisitionner le domicile de Maitré, les 10h du matin le vendredi.
Voilà.
Et là, ils vont trouver...
Ils vont trouver des explosifs, d'une part, et puis surtout des talons de chèque, puisque Maitré, en tant que maître chanteur, était quelque peu aussi pied-niquelé, oui, et il signait...
Sous son nom.
Voilà, dans les différents hôtels des différentes villes dans lesquelles il commettait ses attentats.
On trouve Lyon, on trouve Annecy et on trouve Grenoble.
Voilà, complètement.
Alors, ce qui est formidable, c'est que la chance était vraiment du côté des enquêteurs ce matin-là, parce que donc par hasard, ils arrêtent Maitré, ils s'aperçoivent qu'ils font le lien évidemment avec les attentats, et puis donc tout ça vers 10h du matin, 11h30, il y a une voiture qui arrive devant l'immeuble, oui, et dont descend une belle blonde, une jolie blonde dont on n'a plus jamais entendu parler d'ailleurs depuis, en mini-jupe, rose, belle fille, un beau brin de fille qui habitait, je crois que les enquêteurs vont découvrir qu'elle habitait avec Maitré depuis une quinzaine de jours,
c'est cela.
On n'en sait pas plus. Et puis le conducteur, lui, c'est Vallot, c'est l'artificier.
Voilà.
Et évidemment, on ouvre le coffre de la voiture et là, bingo.
Et voilà, on découvre en fait une bombe similaire aux bombes des différents attentats. Voilà. Et qui était en partie constituée d'un tube de plomberie de 60-70. Et ça, c'était un élément important dans les revendications pour authentifier. Voilà.
Voilà donc cette histoire résolue quand même par la police, grâce vraiment à... Mais il paraît que la chance fait partie du talent, hein, les policiers le disent, les journalistes aussi. Il faut juste ajouter une chose avant de tourner cette page, c'est la signification du sigle M5, ça voulait dire quoi?
Alors, M5, M comme Maitré, 5 étant le mois de mai étant celui de naissance de Maitré. Voilà, tout simplement, mégalomanie.
Voilà, dans un petit instant, après une pause, on va parler d'un incontournable des crimes en chemin de fer. C'est une histoire de mal sanglante.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Les grandes affaires criminelles du rail, c'est un livre qui vient de paraître aux éditions De Boré. Il est signé, ce livre, Jean-François Mignac, qui est, on l'a dit tout à l'heure, scénariste, dessinateur, auteur de BD, mais aussi, enfin, vous avez beaucoup travaillé dans le domaine du polar, on va dire, hein, dans l'univers du polar.
Absolument.
Qui vous fascine. Et là, vous êtes attaqué, si j'ose dire, à ces affaires qui criminelles qui sont déroulées dans des trains depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours. Alors, il y a eu des histoires d'attentats. On vient d'en parler avec le groupe M5. Il y en a d'autres, d'ailleurs, que vous rappelez. Mais je renvoie tous les lecteurs, évidemment, à votre livre qui met en scène les mouvements autonomistes bretons qui ont voulu un jour saluer le 400e anniversaire du rattachement de la Bretagne à la France.
En 1932.
Et en attaquant carrément le président du conseil de l'époque qui s'appelait Édouard Herriot.
Voilà, c'est ça.
Voilà, bon, alors ça c'est le terrorisme. Il y a également des crimes, j'allais dire,
crapuleux.
Des crimes crapuleux. Et là, on est dans un crime crapuleux avec une constante des affaires criminelles, parce que dès qu'on parle de malle sanglante, évidemment, tout le monde se dit, ah là là, qu'est-ce qui s'est passé, qui était dans la malle. Votre histoire, comment ça se passe en 1896, au mois de mai 1896, et cette histoire de malle sanglante, qui en fait a commencé à Paris, on va le découvrir dans un instant, mais là, elle éclate, cette affaire, dans une petite gare de la Manche, à Couville.
Absolument, qui est Couville, qui est à une dizaine de kilomètres de Cherbourg. Donc ce jour-là, une odeur nauséabonde émane d'une malle, et donc des cheminots ouvrent cette malle et découvrent le corps, le cadavre d'un jeune homme qui est donc Émile Delahaye.
Voilà. Alors qui est ce jeune homme donc
Ce jeune homme est un Parisien, est un jeune homme de 23 ans, timide et surtout collectionneur de timbres en fait. Hein. C'est un crime philatélique.
Oui. Alors on a découvert il ne porte pas de blessure sur le corps, mais il a une blessure très grave qui a causé la mort.
Il a reçu un coup sur le crâne en fait, un coup unique près de la fontanelle qui a causé sa mort.
Oui. Alors, ce qu'on sait aussi, au tout début de cette affaire, c'est que un homme et une femme sont arrivés de Paris avec cette malle et l'ont laissée à la consigne.
Voilà. La malle est partie le mercredi de Paris. Ce couple a accompagné la malle, a laissé la malle à Couville et parti sur Cherbourg. Là, sur Cherbourg, ils ont effectué quelques achats et surtout, ils ont été sur le bord de mer, au Becquet, à Land de Mer, à la recherche d'un endroit.
Oui,
en particulier.
Interrogeant déjà les gens pour savoir si la mer était profonde.
Voilà.
À cet endroit-là, bon.
Voilà. Probablement pour se débarrasser de la malle en question.
Ouais. Et ils ont essayé de louer une maison aussi, mais c'était trop cher.
C'était trop cher. Absolument. Donc le recel ne devait pas suffire. Ils reviennent à Couville pour récupérer la malle. Et là, naturellement, le chef de gare les attend et procède à leur arrestation. Et nous sommes le vendredi.
Voilà. Alors, on découvre l'identité de ce couple qui a voyagé avec la malle sanglante. L'homme s'appelle Joseph Aubert, la femme s'appelle Marguerite Dubois. Lui, il est négociant en vin. On appelait ça un placier.
Absolument. Donc, il est issu d'une grande famille du Médoc, hein, qui existe toujours, aujourd'hui a 8 châteaux prestigieux. Hein. Ouais. Et cet homme est à la fois graphomane raté, à la fois négociant raté et aussi assassin raté.
Oui, puisqu'il va se faire prendre. Et cette jeune femme qui est avec lui, elle a exercé la profession de
bonne à Bordeaux.
C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés.
Voilà.
Et elle vit avec lui.
Voilà.
Alors maintenant, évidemment, ce qui est intéressant, la sûreté de Paris va prendre l'enquête. Hein, l'enquête va pas rester dans la Manche. Tout ça va être rapatrié sur Paris.
Oui.
Et là, les enquêteurs vont aller de surprise en surprise.
Oui, complètement. Alors la personne qui mène l'enquête, c'est donc Armand Cochefer, le directeur de la sûreté, qui vient sur Cherbourg et qui procède aux premières investigations. Et à Cherbourg même, le dimanche, les aveux. En fait, fait des deux protagonistes sont effectués.
Alors j'imagine on va aller chez eux à Paris, on va découvrir deux pièces à conviction.
Alors on découvre deux pièces à conviction et essentiellement l'arme du crime, l'arme du crime étant une hache Peugeot avec d'une part un tranchant et puis d'autre part un marteau en fait. Et donc c'est avec ce marteau que Delahaye a été frappé.
C'est ça. Et l'étoffe rouge, c'est celle dans laquelle le corps donc était enveloppé quoi.
Absolument. Ouais.
Alors Marguerite va beaucoup parler aux policiers, elle va donner le scénario, elle va dire Joseph, il a reçu un client chez lui et puis ça s'est mal passé, il y a eu une altercation et puis quand je suis arrivé, il m'a dit oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, il est mort, il faut se débarrasser du corps. Mais enfin, bref, c'est un accident.
C'est un accident. Ceci étant...
Un homicide involontaire, on va
dire. Voilà.
Et ça, c'est la version...
C'est la version, effectivement, de Marguerite Dubois. En réalité, naturellement, le lieu du crime étant le domicile d'Aubert, avenue de Versailles, à Paris 16e, et en réalité, il y a des témoins, il y a un voisinage qui a vu un certain nombre de choses, qui a d'une part vu...
L'arrivée de la malle,
l'arrivée de la malle
au BHV.
Dans l'après-midi, voilà, pour 27 francs, précisément. Et donc l'arrivée de la malle dans l'après-midi du samedi, hein, le crime ayant eu lieu ce jour-là. Par la suite, dans la soirée, un voisin entend la malle être descendue par l'escalier par Aubert et donc un cocher.
Voilà, qui se plaint que ce soit un peu lourd.
Que ce soit un petit peu lourd, et pour cause. Et cette malle en question est ensuite envoyée dans un premier temps chez un emballeur, de façon à confectionner une boîte et la dissimuler pour le travail, pour le trajet.
D'accord, mettre la malle dans un coffre en bois. En fait.
Voilà, absolument. Ouais.
Alors, maintenant, évidemment, pour les enquêteurs, se pose la question du mobile. Ils ne croient pas trop à l'altercation. Oui. Ça leur paraît...
Aucun voisin n'a entendu bruit de dispute.
Et ils vont découvrir que Joseph Aubert et la victime se sont rencontrés dans un endroit qui existe toujours à Paris d'ailleurs, qui est tout près d'ici,
là. Avenue Marigny, ouais. En fait, hein, qui est un marché au timbre, qui a lieu chaque jeudi, chaque dimanche, et un jeudi de janvier, en début 1896, Aubert a observé ce jeune homme qui est vantard en fait, hein. Il s'est vanté d'une part d'avoir hérité et puis d'autre part il se vante d'avoir acheté une collection de timbres d'une valeur de 2000 euros, et cela début mai.
2000 francs à l'époque
2000 francs pardon
2000 francs à l'époque, ça fait beaucoup d'euros, mais même on suppose que la collection était beaucoup plus importante que ça, hein.
Oui, d'une valeur de 10 000 à peu près.
Voilà. Alors donc ça, ben c'est tout simplement le mobile, et à partir de là l'enquête va être bouclé. Alors, on peut se demander, évidemment, je ne sais pas si ça a été vu par les enquêteurs, le rôle vraiment de Marguerite. Est-ce qu'elle a servi d'appât ?
Non, elle n'a pas servi d'appât. Non, non, du tout.
C'est pour ça qu'elle a été acquittée, en fait.
Ah, elle a écopé de trois ans de prison, et lui, effectivement, n'a pas vraiment été acquitté, puisqu'il a pris... il a été condamné au bagne à perpétuité.
Ouais, travaux forcés à perpétuité, oui. Donc dirigés sur le bagne de Nouvelle-Calédonie. Voilà. Son avocat avait tenté de plaider la folie. Oui. Enfin, ça n'a pas convaincu. Voilà. Et puis cette famille, effectivement, qui existe encore aujourd'hui, où on a oublié l'existence de ce fils
un peu maudit.
L'affaire est quand même très ancienne maintenant.
Oui.
La prescription. Voilà. Alors, on va faire une pause. Et dans un petit instant, on va revenir sur une histoire évidemment de chemin de fer, de rail, de voie ferrée aussi. On va trouver un cadavre déchiqueté sur une voie ferrée près de Dijon. Et le personnage, c'est un personnage considérable qui est au centre de l'actualité à cette époque-là. On est en 1934. C'est le conseiller Prince. Et cet homme avait un dossier, dit-on, sur l'affaire Stavisky.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et nous sommes en compagnie de Jean-François Mignac, mon invité, auteur d'un livre que je vous recommande chaleureusement si, comme nous, vous êtes passionné d'affaires criminelles. Ça s'appelle « Les grandes affaires criminelles du rail » et ça vient de paraître aux éditions de Boré. Il y a beaucoup d'histoires dans ce livre. On en a sélectionné quelques-unes, mais on ne peut que les survoler, évidemment. Donc je vous invite à aller plus loin, évidemment, en lisant les dossiers tels qu'ils ont été racontés par mon invité. On va parler maintenant d'Albert Albert Prince. Alors, Albert Prince est un personnage considérable à son époque. Il est chef de la section financière du parquet de Paris. Il est conseiller à la cour d'appel de Paris. Et cet homme, l'histoire commence en fait le 19 février 1934 par un coup de fil passé au domicile du conseiller alors qu'il vient juste de quitter son appartement pour aller justement au palais de justice.
Voilà, et c'est donc son épouse qui reçoit ce coup de fil émanant d'un correspondant apparemment étant de Dijon. Et ce correspondant demande à ce que le conseiller Prince, son époux, aille sur le champ à Dijon pour au sujet de sa mère, sa vieille mère de 85 ans qui est malade et qui doit être opérée.
Voilà, et il faut son autorisation, le chirurgien dont on cite le nom au téléphone, veut absolument le rencontrer.
Le rencontrer. Alors, il se trouve que le conseiller Prince est parti vers le palais de justice de Paris, où il doit siéger aux assises. Et puis, malheureusement pour lui, il veut acheter un journal et s'aperçoit qu'il a oublié son portefeuille. Il rebrousse chemin, retourne chez lui, et là, son épouse lui apprend la nécessité de se rendre sur le champ à Dijon.
Donc il part en catastrophe, il prend une valise jaune, quelques affaires, très peu, un peu d'argent évidemment, et il file à la gare.
Et il file à la gare avec cette valise jaune et aussi une mallette dans laquelle il y a le dossier de l'affaire Stavisky. Mmh. Donc il prend le train de 12h32, effectue son trajet et arrive en gare de Dijon à 16h40. À 16h40, il sort de la gare, va s'adresser à un chauffeur de taxi pour prendre ce taxi, et à ce moment-là, il est intercepté par un individu dont on ignore tout encore aujourd'hui, et il part avec cet individu, il discute quelques minutes, et le chauffeur de taxi, Monnier, les voit partir tous les deux, tout simplement.
Juste une question, le conseiller Prince n'a pas eu le temps d'aller à son hôtel, je me souviens plus.
Alors,
il a eu le temps de déposer sa valise.
Alors
le
conseiller Prince part justement avec cet individu, va à son hôtel dans lequel il descend régulièrement, dépose sa valise d'effets personnels
et ressort de l'hôtel.
Et là, ce sera la dernière fois qu'on le verra vivant.
Alors c'est la dernière fois qu'on le verra vivant. C'est aussi pratiquement la dernière fois, en tout cas. À 16h57, qu'il se manifeste auprès de son épouse, parce qu'elle va recevoir un télégramme daté de 16h57, bien arrivé, je vais à la consultation, Albert.
Voilà, donc un télégramme qui est rassurant.
Alors, bon, ça c'est la première partie de l'histoire. Maintenant, mais ça va très vite, il est 21h.
Oui.
Et là, il y a un mécanicien d'un train, c'est-à-dire que des gens qui réceptionnent les locomotives qui ont fait un parcours, notamment Paris-Dijon, par exemple, qui nettoient les wagons et les locomotives. Et là, il fait une constatation terrible.
Inspectant sa locomotive, en fait, il découvre, à une roue, entourée autour d'une roue, une écharpe rouge, et puis, sur l'autre roue, avant, des débris humains.
Alors évidemment, branle-bas de combat, on avertit sur toute la ligne les gardes-barrières, on envoie des cheminots partie de chaque gare intermédiaire pour faire quelques kilomètres pour inspecter la voie, se disant, mais le train a dû percuter quelqu'un, on va peut-être retrouver le cadavre, et effectivement, vers minuit, dans un endroit mal nommé, la Combe aux Fées, qui est à quelques kilomètres.
Au kilomètre 311 de la ligne, en fait.
On découvre un corps mutilé, atrocement mutilé.
Alors, atrocement mutilé, coupé en deux dans la longueur, la tête à 12 mètres du corps. Donc, le choc a été extrêmement violent. Et sur une cinquantaine de mètres, tous les effets de la personne en question. Et on découvre une carte de visite au nom d'Albert Prince, une convocation judiciaire aussi à son nom.
Donc, qui se trouve dans une serviette. On ne retrouve pas la mallette, on retrouve la serviette.
Voilà.
Dans la serviette, il y avait la convocation pour aller au tribunal, parce que le lendemain, il devait aller justement il était en quelque sorte rapporteur d'une étude sur l'affaire Stavisky.
Oui.
et il devait rencontrer donc...
Alors en réalité, il y avait effectivement une commission d'enquête judiciaire qui avait été créée le lundi même, et dans laquelle il devait témoigner le surlendemain, le jeudi.
Voilà. Alors ça fait déjà beaucoup de choses qui s'accumulent. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un suicide? Il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans le sens du suicide, c'est qu'on a fait une autre découverte.
Alors une découverte, absolument, c'est que on retrouve à sa cheville gauche des traces de ficelles et répandues aussi sur le ballast, aussi des débris de ficelles. Donc c'est quelqu'un qui a été attaché à la voie, au rail d'une part, et par ailleurs l'autopsie va révéler qu'il a été tué, non pas sur les rails, mais probablement en ville. En tout cas, il a été endormi. Et on retrouve des traces de strangulation. Donc la mise à mort s'effectue en dehors des rails et il est disposé sur la voie ferrée de façon à simuler soit un suicide, soit un accident.
Voilà. Alors là, on est évidemment dans une affaire qui va faire la une de la presse nationale. Immédiatement, d'ailleurs, la politique s'en empare. Hein,
je veux dire,
la droite, la gauche, tout le monde s'accuse.
Oui, alors c'est une période qui est extrêmement trouble. Hein. Là, on est depuis peu sous le gouvernement de Gaston Doumergue, avec un garde des Sceaux qui est Henri Chéron, qui reprend l'affaire Stavisky à la base. Bon, il faut rappeler simplement Stavisky.
C'est le Madoff de l'époque, on va dire.
Lui-même a été retrouvé mort le 8 janvier précédent à Chamonix, mort dans des conditions suspectes.
Le Canard Enchaîné avait titré, je crois, Stavisky retrouvé abattu d'une balle à bout portant d'une distance de 2,50 m, c'est ce qui s'appelle avoir le bras long.
Voilà,
en gros,
c'est ça.
Absolument.
Oui.
Alors là, il faut dire une chose, c'est que dans on va faire une pause dans quelques secondes et on va rester sur cette affaire qui est absolument passionnante, mais il faut dire que on murmure dans les milieux autorisés, comme on disait à l'époque, que le conseiller Prince, qui a donc enquêté pour cette commission d'enquête sur les méfaits de Stavisky, a aussi enquêté sur une question très trouble, c'est pourquoi Stavisky a pu sévir aussi longtemps. Il a pu sévir aussi longtemps parce qu'il bénéficiait de très hautes protections, parce qu'il était condamné et les condamnations n'étaient pas exécutées. On le cherchait partout, il était chez lui avec une Rolls. Enfin bon. Donc, et on se dit, le conseiller Prince a peut-être découvert là une bombe pour faire sauter la République, si je peux me permettre d'utiliser cette expression.
Oui, alors il y avait effectivement des accointances politiques, peu nombreuses, mais réelles, d'un député, d'un sénateur, et puis d'un dénommé Pressard, en fait, qui était procureur de la République sur Paris, et qui se trouvait être aussi le beau-frère de Camille Chautemps, président du Conseil, encore en début d'année, en fait. Voilà.
Et un personnage de l'enquête dont on n'a pas parlé encore, mais on va le faire dans un instant après une pause, c'est le fameux inspecteur Bonny. Ça vous dit quelque chose, peut-être? Non? On va vous expliquer.
L'heure du crime sur RTL.
Mon invité, Jean-François Mignac, auteur des Grandes Affaires Criminelles du Rail aux éditions de Boré. C'est un livre que j'ai véritablement dévoré dès que on l'a reçu. On y parle évidemment de beaucoup, beaucoup d'affaires criminelles qui sont déroulées dans les trains, des crimes passionnels, des crimes malheureusement également, vous avez trouvé l'expression tout à l'heure, j'arrive jamais à trouver cette expression, le tout venant du crime, quoi.
Voilà. Crapuleux.
Voilà, crapuleux, l'étudiant qui monte dans un train, il a vu qu'on chargeait de l'argent à l'intérieur, il se dit, tiens, il y a de l'argent dans les trains, il va tuer le chef de train, et il va lui voler son portefeuille, il est vide. Quand on va l'arrêter, on va dire, qu'est-ce que vous venez, ça se passe à Nancy, on lui dit, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire à Nancy, d'y boire une bière. Bon. Des histoires comme ça, c'est incroyable.
Oui, il y a une part de hasard, finalement, dans la crime. criminalité ferroviaire. Hein. C'est les, en règle générale, les gens ne se connaissent pas. Hein. Voilà. Il n'y a pas de ressort psychologique antérieur.
Absolument, sauf que c'est un huis clos terrible, hein, quand on sait qu'un assassin pénètre dans un compartiment où il y a un brave homme qui ne pense pas que ça va mal se terminer.
Oui, qui est là au mauvais moment.
Voilà. Donc dans les trains, un assassin peut en cacher un autre. Alors on revient à notre histoire, d'Albert Prince, 1934, cette mort horrible, un homme déchiqueté sur une voie de chemin de fer près de Dijon. Il y a eu un coup de fil bizarre pour lui dire que sa vieille maman était très malade et qu'elle devait être hospitalisée. On cite le nom du chirurgien, mais on se trompe dans l'orthographe.
Hein. Oui, c'est un guet-apens.
Voilà, c'est un guet-apens, clairement, pour la famille en tout cas. Oui. C'est un guet-apens, ce qui n'est pas le cas de tous les policiers. Alors, je parlais de l'inspecteur Bonny. L'inspecteur Bonny, sinistre réputation maintenant, évidemment, après coup, puisqu'on sait que pendant la guerre, il s'est illustré à Paris du côté de la rue Lauriston avec la fine fleur de la Gestapo et des malfrats français qui avaient joué la carte des nazis. Mais en 34, l'inspecteur Bonny vient d'être baptisé le meilleur inspecteur de France par sa hiérarchie.
Oui, en l'occurrence par Chéron, qui est donc le garde des Sceaux, en fait, qui estime qu'il a sauvé la République tout simplement parce qu'il a recueilli des talons de chèque dans l'affaire Stavisky. Voilà. Et de suite...
On le met sur
l'affaire Prince, naturellement.
Alors là, il déçoit personne, hein, parce qu'il dit, au bout d'un certain temps... Alors, c'est fou, hein, parce que ça fait la une des journaux, comme j'ai dit. Oui. On va même chercher Simenon, donc le papa de Maigret, pour s'intéresser à l'affaire, pour faire l'enquête. Il y a des retraités de Scotland Yard qui sont envoyés en France sur le terrain par François, je crois, qui ne publiera d'ailleurs jamais leur rapport, parce que ces deux policiers anglais vont conclure, eux, au suicide. Mais alors, l'inspecteur Bonny, lui, il dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est la mafia de Marseille qui a tué le conseiller Prince.
Voilà. En fait, il recueille un certain nombre de témoignages, hein, une petite dizaine de témoignages, de personnes qui témoignent avoir vu... La mafia à l'époque marseillaise était tenue par deux parrains, donc Paul Carbone et puis François Spirito, hein, donc ont été incarnés par la suite par de Bébel et Delon dans Borsalino. Ouais. Et donc ces deux personnages tenaient la ville de Marseille avec un adjoint au maire qui était corrompu, député de gauche, député des Bouches-du-Rhône, qui était Sabiani. Voilà.
Ouais, voilà. Ils étaient les hommes à tout faire de Sabiani, voilà. Colleur d'affiche. Ils faisaient des troubles dans les réunion électorale des autres.
Voilà, etc., etc. Absolument.
Mais il tenait aussi le marché de la drogue, de la prostitution.
Du racket. Complètement. Et donc, ces individus sont effectivement mis en cause par un certain nombre de témoins, notamment un cheminot qui, le jour du crime, prétend les avoir vus, enfin tout au moins témoigne de les avoir vus sur un pont à Dijon. Ouais. Voilà. Et d'autres personnes dans des trains.
Alors, ils sont mis en garde à vue, je sais pas, on disait ça comme ça à l'époque, mais à Paris. Hein,
oui,
ils ont été interrogés pendant des heures et des heures. Alors, ils vont nier, évidemment.
Oui, ils sont mis en garde à vue, hein, l'un comme l'autre, ainsi qu'un troisième comparse, hein, qui est Gaëtan de Lutzatz, hein, qui est un autre truand marseillais. Et nécessairement a lieu une confrontation entre les suspects et effectivement ces témoins.
Ouais.
Et
qui sont moins affirmatifs.
Qui sont beaucoup moins affirmatifs. Ouais. On peut les comprendre.
Ils connaissent évidemment la réputation des gens en face d'eux.
Des deux cocos.
Et alors, ce qui est formidable, c'est que Carbone et Spirito vont faire un retour à Marseille, en train d'ailleurs.
Oui.
Ils font, avec un accueil alors, extraordinaire.
Enfin, absolument.
C'est un peu comme à New York quand on jette des papillotes par la fenêtre. Quoi.
Oui, oui.
Vous savez, là, c'est sur la Canebière et ça va au Vieux-Port, mais enfin quand même.
C'est un temps en Amérique, hein, c'est exactement
c'est
ça. Et donc, ils descendent en gare Saint-Charles, descendent la Canebière en voiture de luxe vers le Vieux-Port. Ils sont accueillis par plusieurs milliers, 2000 personnes en fait. Hein. Soir même, Sabiani fait un meeting s'attaque directement à l'inspecteur Bonny devant quelques milliers de personnes. Hein, ouais.
Alors, il y a également dans cette affaire, on peut pas tout raconter, mais il faut savoir qu'il y a le fameux commissaire Guillaume qui a inspiré, comme chacun sait, une partie du personnage de Maigret. Simenon, j'en ai parlé, mais enfin, il s'est planté complètement. Simenon, il est allé voir des malfrats à la butte Montmartre qui lui ont raconté des histoires incroyables qu'il a racontées dans les journaux. Enfin bon, il a juré ensuite qu'il ferait plus aucune enquête autre que celle de Maigret. Et Et alors, ce qui est formidable, c'est que, eh bien, il y a Guillaume va penser qu'il s'agit d'un suicide. Ça va être la thèse vraiment qui va être développée par un certain nombre d'autorités, thèse que vous contestez formellement, que la famille a contesté formellement également. Mais en 1937, il va y avoir un non-lieu, c'est-à-dire que l'affaire va se terminer par des points de suspension. Officiellement, on ne sait pas quelle était la bonne hypothèse.
Absolument, oui, oui.
Qu'est-ce qu'il nous reste comme espoir? La fille du conseiller Prince a écrit un livre il y a quelques années.
Donc Gisèle,
voilà, elle a écrit un livre pour revenir là-dessus en disant évidemment que son père avait été assassiné. Oui. Le fils de l'inspecteur Bonny a écrit un livre où il laisse entendre que lors de son exécution après la guerre,
le 27 décembre 44, effectivement, Bonny est exécuté, fusillé au fort de Montrouge pour les faits de collaboration. Il aurait effectivement confié d'une part au médecin de la prison et puis d'autre part à son fils qu'il aurait été le responsable ou tout au moins un des responsables de l'affaire Prince, entre guillemets, au nom de la République.
Voilà, pour sauver la République, bien sûr. Je vous remercie beaucoup. On est obligé d'en rester là, Jean-François Mignac. C'est dommage parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Le livre « Les grandes affaires criminelles du Rhin » qui vient de paraître chez Debray est absolument passionnant. Je regrette qu'on n'ait pas eu le temps de parler de l'attaque du train de l'or. L'or du Congo qui se promène dans un train de marchandises près de Marseille. Il y avait de quoi quand même allumer pas mal de convoitises dans le milieu. C'est une histoire extraordinaire. Des histoires que vous racontez aussi sur les résistants pendant la guerre. Enfin bon, bref, un sans faute absolu et un très beau livre. L'émission est terminée maintenant. On va retrouver Flavie Flamand dans quelques secondes.